Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Il est mort en 1950 et pourtant il est toujours d'actualité. Son roman le plus célèbre est cité à la moindre occasion, pour ne pas dire à tort et à travers, et même de travers parfois. Nous allons essayer de remettre ce livre à l'endroit. Le livre c'est 1984 et l'auteur c'est George Orwell, bien entendu. Il vient de faire son entrée à la Pléiade. Il était temps, mais il est bien accueilli. C'est Philippe Javorski qui s'est occupé de son accueil dans la prestigieuse collection. C'est lui déjà qui s'était chargé de Fitzgerald. On avait fait une belle émission à l'époque. Philippe Javorski sera notre invité. Je vous annonce quand même la suite du programme. Le roman culte, bien sûr. Bon, bah là, c'est facile. Nous lirons la première page de 1984. Nous visiterons la bibliothèque de Philippe Geluck. Belle programmation, décidément. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. 1984. Oh là là, on se croirait dans 1984. Non mais attends, c'est 1984 ça. Ces caméras de surveillance, c'est Big Brother is watching you. Oh là là, il a dit conf call, c'est de la novlangue. Voilà, un petit florilège de ce qu'on entend sans arrêt, parfois à bon escient d'ailleurs, parfois non. 1984 fait partie de ces romans tellement célèbres que les différentes générations se le réapproprient sans arrêt. Et tant mieux, mais quel était l'objectif de l'auteur? On va parler de 1984, bien sûr, mais d'abord, intéressons-nous à George Orwell lui-même. Bonjour Philippe Javorski.
Bonjour Nicolas Carreau.
Vous avez dirigé la publication de l'œuvre de George Orwell à la Pléiade, c'est magnifique. Alors on y trouve bien sûr 1984, mais aussi Dans la Dèche à Paris et à Londres, superbe, mais alors largement moins connu. En Birmanie aussi, l'un de ses premiers romans, et puis évidemment La Ferme des Animaux. Première remarque, George Orwell ne s'appelle pas George Orwell, Philippe Javorski. C'est un pseudonyme. Pourquoi change-t-il de nom? Comment trouve-t-il George Orwell?
Oh, comment il trouve George Orwell? Écoutez, à un certain moment de sa carrière, il commence à publier à droite et à gauche. Et il lui vient l'idée de peut-être prendre un pseudonyme, peut-être par souci de protéger son identité personnelle, en quelque sorte sa vie privée, sans doute. C'est le nom d'une petite rivière tranquille du Sussex, ce qui n'est pas sans intérêt, bien sûr.
Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de plus libre aussi en prenant un pseudonyme? Ça permet peut-être d'aller plus loin, je ne sais pas.
Ah oui, sûrement. C'est un nom de plume. Donc c'est un masque en même temps. Mmh. C'est une identité littéraire nouvelle. Il se lance dans une nouvelle vie, une vie proprement littéraire. Mais en même temps, bien sûr, c'est un masque. C'est un homme qui ne livrera jamais totalement ses vérités les plus profondes. Vous parliez par exemple de Dans la Dèche, qui est son premier livre publié, et qui est un merveilleux reportage sur les mois qu'il a passés à Paris et à Londres. À Paris, où il était parti pour faire ses premiers pas d'écrivain, pour apprendre à écrire, et où il a passé quelques mois dans des quartiers extrêmement pauvre, à Londres, où il a fait une expérience qu'on dirait aujourd'hui d'immersion dans les quartiers des indigents, dans l'est de Londres, un petit peu sur les traces de Jack London, qui avait déjà fait cette espèce de pèlerinage quelques années plus tôt. Et ses premiers écrits, ou ce premier écrit en tout cas, Dans la Dèche à Paris et à Londres, nous le montre racontant au plus près, en quelque sorte, ses expériences. Là, il se fait en quelque sorte journaliste de lui-même. Hein. C'est une initiation au reportage, si l'on veut. Mais on s'est aperçu que son récit comporte un certain nombre de manipulations de la vérité. On le voit déjà au travail, en train de parler de lui-même, de s'écrire en quelque sorte, mais à distance, sans tout dire, ou en remodelant un certain nombre de faits, de manière à pouvoir faire passer ce qu'il appellera tout au long de sa carrière un message.
Oui, il fait partie de cette grande famille des écrivains qui sont aussi journalistes et qui mélangent un peu les deux façons de faire, d'une certaine manière.
Oui, il est journaliste, c'est un reporter, c'est un journaliste. Quand il part dans le nord de l'Angleterre à la demande de son éditeur pour faire un reportage sur les conditions de vie des mineurs, c'est vraiment comme un grand journaliste. Bon, il n'est ni sociologue, ni historien, ni spécialiste de la classe ouvrière, ni spécialiste des houilles,
mais il a une sensibilité.
Il raconte ce qu'il voit. Il y a une très grande sensibilité, et puis alors, lorsqu'il entreprend ce voyage, enfin ce double séjour à Paris et à Londres d'abord en réalité, et à Paris, il intervertit l'ordre des séquences dans son livre, c'est, expliquera-t-il, pour expier une sorte de culpabilité qu'il a ressentie tout au long des 5 années qu'il a passées en Birmanie. Alors, ces 5 années birmanes, il les a évoquées en Birmanie, dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'il y est parti comme fonctionnaire de l'Empire, et pas n'importe quel fonctionnaire, puisqu'il était officier de police.
Très jeune.
Il revenait un petit peu là sur les... Très jeune. Il au sortir de sa scolarité, qui n'a pas été particulièrement brillante, il repart plus ou moins sur les traces de son père, et qui était lui aussi fonctionnaire de l'Empire britannique, dans une obscure province à la frontière népalaise. Son père s'occupait du trafic de l'opium, enfin, jeter l'œil sur le trafic de l'opium. Orwell, Eric Blair plutôt, puisqu'à l'époque il a toujours son nom de famille, Eric Blair part comme officier de police. Il va donc être au service de l'Empire britannique pendant 5 ans, de poste en poste. Il va parcourir la Birmanie, et avec un sentiment très profond d'être devenu malgré lui-même complice d'un ordre injuste qu'il dénonce en même temps, c'est-à-dire qu'il le sentiment de très très profond malaise vient du fait qu'il est continuellement soumis à des règles qui sont celles de ce qu'il appelle un racket, c'est-à-dire une exploitation économique éhontée des populations de l'Empire des Indes. C'est la Birmanie, mais c'est à l'époque une province de l'Empire des Indes.
Il adhère pas du tout à l'idée de l'Empire, en fait.
Il croit quand même, je pense, à une possible mission civilisatrice de l'Angleterre, enfin de la couronne britannique, mais il refuse absolument considérer que les moyens qu'utilise la couronne sont les bons. Il y a une des grandes trouvailles de son roman en Birmanie, ce sont les dialogues qu'il y a dans le roman entre son héros, qui est un double de lui-même, qui dénonce avec virulence justement la destruction, par exemple, opérée par le pouvoir de la culture indigène, l'exploitation, le règne de l'hypocrisie, des dénonciations, la corruption généralisée. Dialogue donc entre son personnage, qui voit très clair dans le colonialisme anglais, et puis celui qui est le meilleur ami, l'ami intime du personnage, qui est un médecin indien, qui alors lui chante les louanges de l'Angleterre, qu'il voit comme une grande nation civilisatrice sans laquelle toutes les populations mourraient de faim. C'est une trouvaille très très remarquable, très très ironique, de voir les deux personnages à contre-emploi en quelque sorte. Et ça permet à Orwell de montrer la complexité de la situation, puisque c'est la victime qui défend l'ordre établi, et c'est celui qui est chargé de faire régner la loi qui conteste le bien fondé de cette loi.
D'ailleurs, il n'est pas né en Angleterre, George Orwell. À quoi ressemble sa jeunesse, Philippe Jaworski ?
Il est né dans une très lointaine petite ville de l'Inde, de l'Empire des Indes, près de la frontière népalaise, mais il est très rapidement revenu en Angleterre avec sa mère. Et il ne la quittera à la fin de l'adolescence, cette Angleterre, que pour partir vers la Birmanie, où il reste 5 ans, puis il revient vers son île, d'où il repart pour passer quelque temps à Paris. Il ne quittera plus guère son Angleterre natale que pour prendre le train en direction de Barcelone et participer à la guerre d'Espagne pendant 6 mois, où il va s'engager dans les milices anarchistes. Et on sait qu'il revient de ces 6 mois passés dans les tranchées d'abord et puis à Barcelone en mars 37. Il revient de Catalogne pour écrire son grand livre sur la Catalogne, qui s'appelle « Hommage à la Catalogne », où il dénonce les mensonges, en particulier de la presse occidentale et anglaise, sur le comportement du gouvernement espagnol, du gouvernement républicain espagnol.
Et il meurt donc en 1950, juste après avoir publié 1984. Alors, il ne meurt pas dans l'indifférence générale, c'est un écrivain reconnu quand même à l'époque, hein, mais il n'a pas du tout la célébrité qu'il a aujourd'hui.
Non, absolument pas. Il acquiert une véritable célébrité au moment de la publication de La ferme des animaux en 1945. Le livre est immédiatement un grand succès. 1984, qui est publié 4 ans plus tard.
Donc un an avant sa mort.
Fait l'effet d'une. Un an avant sa mort, fait l'effet d'une bombe. Et évidemment, à l'époque, les lecteurs n'ont pas de mal à reconnaître beaucoup de choses dans le roman. C'est un roman qui leur parle très directement. D'une part, parce que la dénonciation du régime totalitaire de Staline crève les yeux.
Ah bah justement, je vous arrête, puisque dans un instant, nous plongeons dans l'enfer de 1984.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Philippe Jaworski, qui a dirigé la publication de l'œuvre de George Orwell à la Pléiade. Alors on y vient. 1984, c'est son livre le plus connu avec La ferme des animaux, mais c'est un livre qu'il écrit à la fin de sa vie, il l'écrit en 48, c'est pour ça d'ailleurs qu'il choisit 84, il a simplement inversé les chiffres. Il meurt 2 ans plus tard. Comment explique-t-on aujourd'hui qu'on cite 1984 à tout bout de champ? Le livre bondit dans les meilleures ventes à chaque coup contre la démocratie. Nous sommes, je vous rappelle, dans une société gouvernée par une entité un peu abstraite, Big Brother, le grand frère qui voit tout, qui sait tout, il peut même sonder la conscience de chacun. Il n'existe pas vraiment, c'est le système qui l'invente, mais ce qui compte, c'est qu'il existe dans l'esprit de chacun, qu'il soit craint. On est surveillé en permanence par des télécrans, des caméras de surveillance disposées absolument partout, y compris chez soi, et on parle la nouvelle langue. On va y revenir. Le héros s'appelle Winston Smith. Il travaille au ministère de la vérité, aux archives. Il est chargé de nettoyer tout ce qui va à l'encontre de l'orthodoxie. Mais petit à petit, il se rend compte qu'il n'adhère plus aux mensonges. Il faut faire quelque chose, mais il y a la police de la pensée qui veille. Philippe Jaworski, comment explique-t-on que 1984 soit repris sans arrêt à tout bout de champ? Et qu'est-ce que ça dit, 1984? Qu'est-ce que Orwell voulait dire, surtout?
Vous me posez là une question extrêmement...
Vous y répondez brillamment dans la préface de la Pléiade.
C'est difficile. Vous me posez une question très très difficile. La question de savoir pourquoi ce roman est devenu si populaire. Enfin, je dis populaire, mais c'est une formule que j'hésite à utiliser quand même, parce que je suis pas sûr qu'on ait toujours vraiment lu George Orwell. Je trouve qu'on a tendance à utiliser quelques vocables, quelques termes, quelques images extraits de son livre, un peu comme des slogans. George Orwell n'est pas Madame Soleil. On ne peut pas le traiter comme une voyante extralucide. C'est vraiment une trahison d'un grand écrivain. Orwell a, dans un premier temps, le livre est complexe. Dans un premier temps, bien sûr, il y a ce que j'appellerais le sujet du roman. L'objectif là de Orwell, et les lecteurs contemporains ne s'y sont pas trompés, était de dénoncer les horreurs d'un régime totalitaire. Donc il va pousser le tableau au noir le plus profond. pour montrer jusqu'où peut aller le dévoiement de l'idéal révolutionnaire des premiers révolutionnaires, puisque c'est l'histoire d'une révolution dévoyée, d'un idéal de fraternité et de progrès qui était complètement dévoyé et transformé en une machine à détruire le cerveau des hommes.
On est sous Staline quand il écrit le livre.
On est encore sous Staline, qui jouit d'un prestige considérable, puisque toute une partie de la gauche a tendance à oublier, de la gauche dans les pays d'Occident, a tendance à oublier celui qu'on appellerait aujourd'hui le criminel, pour ne voir en lui que le vainqueur de Stalingrad et celui qui a permis de mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il est auréolé d'un prestige considérable qui fait que beaucoup de gens sont prêts à fermer les yeux sur tout le reste. Bon, ça, comme je le disais, personne ne s'y trompe. La cible de la dénonciation, du pamphlet, je rappelle que quand même Orwell est un grand pamphlétaire, est clair pour tout le monde. Je pense que 70 ans après la mort d'Orwell, on peut quand même lire le livre autrement. Mais on ne le lira autrement que si, vous me pardonnerez de prêcher pour ma paroisse, mais si on le lit, dans une traduction qui permet de percevoir ce que j'appellerais toute la dimension morale du roman. Les télécrans maléfiques, c'est bien gentil, mais la société de surveillance, ce n'est pas Orwell qui l'a inventée. Je rappelle dans ma préface que les sociétés de surveillance, elles existent depuis que les hommes ont imaginé les utopies. Dans une des plus anciennes, qui est celle de Platon, dans son dernier dialogue qui s'appelle « Les lois » et que j'invite nos auditeurs à relire, la cité heureuse, la cité du bonheur, la cité parfaite est une société totalitaire. C'est Platon. On dresse les gens dès leur naissance, on les prend en charge et on les surveille tout au long de leur vie. Dans Swift, qui était, comme vous le savez, le maître d'Orwell, Swift a imaginé dans Les Voyages de Gulliver une scène très extraordinaire que Orwell n'a pas manqué d'ailleurs de pointer comme une des prémonitions du totalitarisme de chez Swift, une scène dans laquelle, dans un royaume obsédé par les complots, le prince envoie régulièrement des hommes de science qui sont formés à ce genre d'exercice examiner les excréments, les crottes des ennemis du régime, ceux qu'on soupçonne de pouvoir de fomenter des complots, pour, en lisant, en observant leur odeur, reniflant leur odeur, en observant leur couleur et leur forme, pour déchiffrer les intentions des comploteurs. Vous voyez, la société de surveillance, elle va jusque-là. On regarde les crottes des gens.
Mais il va peut-être plus loin dans les mécanismes de surveillance, Orwell.
Il va un peu plus loin dans les mécanismes de surveillance, mais ce qu'il y a surtout, c'est que il va plus loin que les autres utopistes, dans ce sens que il dénonce très clairement le caractère meurtrier, nécessairement meurtrier, congénitalement meurtrier, si je puis dire, de toute utopie. Vouloir le bonheur humain pour tous, vouloir la perfection, vouloir l'harmonie collective, c'est nécessairement mettre en place un système qui va observer, surveiller, contraindre, dresser en permanence. Donc c'est au fond une utopie, mais pour en finir avec toutes les utopies. Orwell dit en somme, ne rêvons pas sur le mode utopique, contentons-nous d'essayer d'améliorer ce qui peut être amélioré aujourd'hui.
Alors il y a une idée qui est fabuleuse. Aussi, et qui est essentiel, et qui a à voir avec le langage, donc avec l'écrivain, c'est cette fameuse novlangue, le newspeak en anglais. Qu'est-ce que c'est, Philippe Jaworski? En quoi c'est essentiel dans ce type de régime?
Alors, c'est essentiel. Vous remarquerez quand même que cette langue nouvelle que moi je traduis avec le mot néoparle, je m'explique très longuement sur les raisons qui m'ont amené à faire ce choix.
On va y revenir justement.
Elle n'aura pas un succès éternel. On apprend dans l'appendice du roman que le régime s'est écroulé. Et que la fameuse langue artificielle, le néoparle, a sombré avec. Alors, oui, c'est une question de langage, mais là encore, vous trouverez chez Swift des exemples pareils. Toutes les sociétés qui ont essayé de se construire sur le modèle utopique à un certain moment, ont éprouvé le besoin de créer une langue qui était conforme à leurs besoins. Chez Swift, j'y reviens parce que je pense que 1984 était le grand roman swiftien de notre époque, mais j'ai peur que les lecteurs français ne connaissent pas bien Swift. Chez Swift, dans le quatrième voyage de Gulliver, qui est le plus important, le plus intéressant du point de vue de l'utopie, le voyage au pays des chevaux, vous savez que Swift a imaginé une société parfaite, la société des chevaux. Les êtres humains sont les fameux yaou. Là encore, le terme est resté célèbre, qui sont présentés comme des animaux absolument répugnants, féroces, cruels, etc. Dans la société parfaite des chevaux, il y a des mots qui n'existent pas. Par exemple, le mot mensonge n'existe pas. C'est une société dans laquelle il est entendu que tout le monde dit toujours la vérité. Donc on n'a pas besoin du mot mensonge, etc. Donc bien sûr qu'on a toujours besoin de mots nouveaux. Alors, si je peux me permettre, là, puisque nous en sommes au langage qui est évidemment absolument essentiel, quand je disais que on commencera peut-être à entrevoir ce qu'a pu être le projet d'Orwell si on lit un texte un texte français qui tente de respecter les intentions d'Orwell, lorsqu'on se sera débarrassé du fameux Big Brother et qu'on aura traduit cette entité abstraite, comme vous dites, mais enfin terriblement, terriblement féroce et meurtrière, par un nom qui dise quelque chose en français.
Ce que vous avez fait.
Moi, je l'appelle le grand. Ce que j'ai fait, je l'appelle le grand frère pour un certain nombre de raisons, en particulier l'une que j'aimerais quand même pouvoir faire partager à vos auditeurs, qui est que je pense très profondément qu'en conservant éternellement le Big Brother anglais, on fait écran pour le lecteur français, on fait écran au rapprochement, au lien qu'il existe dans le roman et dans la pensée d'Orwell, entre le grand frère qui est le dictateur tout-puissant, le nom du régime du parti unique,
et le protecteur.
Et l'organisation qui est censée être son ennemi, qui s'appelle la fraternité. Il n'est pas sûr que le lecteur français fasse en permanence, comme le souhaite, je crois, Orwell. Ce n'est pas un hasard s'il a utilisé le même mot « brother »,« brotherhood » pour parler des deux ennemis. Je pense que Big Brother fait obstacle à la perception de ce lien absolument essentiel qu'il y a entre le grand frère et la fraternité. Et quand on a commencé à réfléchir à ce lien de consanguinité qu'il y a entre les deux entités, on en vient à se poser des questions qui, alors là, me semblent beaucoup plus importantes et intéressantes pour notre temps que celle de savoir si nous sommes observés en permanence par des télécrans. Par exemple, la question de savoir pour quelles raisons il faut que l'on se tourne quand on veut désigner son ennemi et son ennemi intérieur, parce que la fraternité, c'est l'ennemi intérieur du régime. Pour quelles raisons faut-il que, quand on veut désigner l'ennemi intérieur, on utilise le terme qui désigne celui qui a avec nous le rapport de plus grande proximité.
Mais alors, dans tout ça, quand même, Philippe Jaworski, il y a de l'espoir, quand même. Et l'espoir, c'est Winston, qui représente finalement la liberté, c'est ça ?
Qui représente l'exigence de morale. Winston est condamné dès le début. Il n'a aucune chance de se révolter, de rassembler autour de lui des opposants. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Il est torturé abominablement. La seule chose qu'il peut énoncer jusqu'au bout, ce sont des exigences morales. Oui, je suis un homme. Oui, je représente l'humanité. Oui, je crois en des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Et il me semble que ça, c'est le message d'Orwell. Sommes-nous encore capables de morale ?
Et vous l'expliquez d'une manière lumineuse dans la préface. Toujours lire les préfaces des Pléiades, c'est toujours admirable. Merci Philippe Jaworski. Restez avec nous. Dans un instant, nous lirons un extrait de 1984. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Philippe Jaworski, qui a dirigé la nouvelle édition des œuvres de George Orwell dans la Pléiade. Justement, je vous propose d'écouter la première page de 1984, lue par Philippe Dussault.
C'était une belle et froide journée d'avril, et les horloges sonnaient 13:00. Le menton enfoncé dans la poitrine pour tenter d'échapper au vent mauvais, Winston Smith s'engouffra rapidement par la porte vitrée à l'intérieur de la résidence de la Victoire. pas assez vite, cependant, pour empêcher un tourbillon de grains de poussière de s'y introduire derrière lui. L'entrée exhalait des relents de choux bouillis et de carpettes fatiguées. À l'une de ses extrémités, une affiche en couleur, bien trop grande pour un intérieur, était clouée au mur. Elle ne montrait qu'un visage immense de plus d'un mètre de large. Le visage d'un homme de 45 ans environ, à la beauté fruste, doté d'une épaisse moustache noire. Winston se dirigea vers l'escalier. Inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement et, à présent, le courant électrique était coupé dans la journée. Cela faisait partie de la campagne d'économie qui préludait à la semaine de haine. L'appartement était au 7e étage et Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, monta lentement l'escalier, s'arrêtant plusieurs fois pour se reposer. À chaque palier, face à la cage de l'ascenseur, l'immense visage de l'affiche dardait depuis le mur son regard. C'était une de ces images confectionnées de telle sorte que les yeux suivent tous vos déplacements. La légende en dessous disait « Le grand frère vous surveille ».
C'était la première page de 1984 de George Orwell, lue par Philippe Dussault, merci à lui. Philippe Javorski, vous avez dirigé l'édition dans la Pléiade des œuvres de George Orwell, mais, on l'a dit tout à l'heure, vous avez aussi retraduit 1984. Alors, c'est pas la première fois qu'on essaye de traduire ce livre, il y a eu plusieurs versions. Quelle est la difficulté, en fait? Pourquoi on s'écharpe à la fois sur Novlang, qui est Newspeak en anglais, vous l'avez traduit par Néoparle, les télécrans aussi, ça change. Pourquoi on s'acharne comme ça? Pourquoi on s'écharpe sur ces traductions?
Écoutez, franchement, je ne sais pas. J'imagine que c'est parce qu'on a l'impression que c'est sur le choix de ce petit nombre de mots, parce qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a une dizaine de vocables, qu'on a l'impression que ce sont ces mots-là qui contiennent l'essence, en quelque sorte, l'essence du roman. Bon, pour ce qui me concerne, comme je l'ai très longuement expliqué, je me suis efforcé de respecter ce que Orwell écrit dans son appendice. Je rappelle qu'il y a cet appendice qui est très important au roman, qu'il a mis donc par définition à la fin, dans lequel il explique ce que les pseudo-linguistes de ces ennemis du régime du grand frère ont tenté de faire avec leur langue. La description que Orwell fait, qui a des côtés assez bouffons d'ailleurs, qui rappelle encore une fois là encore beaucoup Swift, la description qu'il fait du fonctionnement de cette langue, le Newspeak, est extraordinairement clair. Et je crois qu'il suffit de suivre ces indications pour essayer de proposer un certain nombre d'équivalents en français. Le point fondamental dans cette langue nouvelle, c'est que les mots sont construits sur les racines, sur des radicaux, sur des racines. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de substantif, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'adverbe, il y a une racine. Donc il me semble que quand on dit « neuf langues », on suggère au lecteur un nom commun féminin, une langue, parce qu'on dit une langue, donc le mot est tiré quand même vers le substantif, vers le nom commun. Mmh. Néo-parler, c'est un peu la même chose. Ces termes de Newspeak, qui est lui-même un barbarisme, hein, vous le savez aussi bien que moi, Newspeak, speak n'est pas un nom, c'est une racine. Mmh.
Mais pourquoi ?
C'est une racine, c'est-à-dire c'est une idée abstraite. Et il faut que les termes français sonnent comme des barbarismes parce que ce sont des barbarismes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est trop tard ? Novlang, par exemple, ça a été tellement approprié que maintenant c'est la novlang et puis c'est tout, au-delà de tous les débats linguistiques, non ? Enfin, évidemment, on ne va pas vous reprocher
Je garde espoir comme George Orwell, je garde espoir aussi pour le grand frère. Écoutez, moi je veux bien, moi je suis traducteur, je vois Big Brother, je traduis comme tous les autres traducteurs du livre dans toutes les langues que je connais, ont tous traduit, il n'y a qu'en français, bizarrement que le terme est resté en anglais, on ne sait pas trop pourquoi. Et écoutez, moi je propose une traduction qui permettra aux lecteurs de réfléchir et de faire leur choix, mais je n'ai pas non plus à renoncer sous prétexte que le nom est entré dans l'usage. Après tout,
c'est ça la liberté et la résistance finalement.
Je reste fidèle à une conviction très profonde. Je crois que c'est une des leçons de George Orwell.
Merci beaucoup Philippe Jaworski et bravo pour cette édition à la Pléiade. C'est admirable. On y trouve aussi donc dans la Dèche à Paris et à Londres, en Birmanie, la ferme des animaux notamment. Voilà, merci beaucoup Philippe Jaworski.
Merci Nicolas.
À suivre, visite de bibliothèque, rendez-vous chez Philippe Geluck. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voie est libre.
La voie est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio à la rencontre de Philippe Geluck qui vient de publier son nouvel album du chat qu'on attend toujours avec impatience. Le chat est parmi nous, c'est le titre.
Bonjour Philippe Geluck.
Bonjour Nicolas.
Je rigole parce qu'on vient de couper les micros, vous avez dit bonjour Mathieu tout à l'heure.
Mais je trouve que ce prénom vous irait mieux. Ouais, non, bon, je ne veux pas critiquer
non,
les parents.
Non, mais j'ai rien contre, mais j'aime bien.
Ils ont bien choisi, mais voilà.
Merci de nous recevoir chez vous.
C'est un plaisir, soyez les bienvenus.
Alors, on n'est pas vraiment chez vous, en fait, on est dans votre pied-à-terre parisien qui est un tout petit appartement, mais avec au mur des peintures extraordinaires, je dois dire, des portraits. Qui sont ces gens ?
Alors,
le monsieur en pied, là, par exemple.
Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui. Ce sont des anonymes. À certains gogo, je fais croire que ce sont mes ancêtres. mais vous ne le croiriez pas. Alors, le portrait en pied, on l'a trouvé au marché du Sablon, chez un antiquaire.
Ouais.
Et pour moi, il pourrait être le père de Magritte ou le père d'Hergé. Parce qu'il porte le chapeau melon, une canne. Il a l'âge d'être le père de l'un des deux. Et chez l'un, ça aurait donné les Dupont-Dupont, et chez l'autre, ça aurait donné l'homme au chapeau melon de Magritte.
Et il y a un monsieur qui ressemble, qui a des faux airs à Robert de Niro.
Oui, absolument. Ça, c'est l'oncle de Robert de Niro, qui est le frère de la maman.
Mais c'est étrange, il y en a 5 ou 6, ce sont des inconnus complets.
Absolument.
Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Mais ce qui me plaît, justement, c'est qu'on ne sache pas qui c'est la qualité de la peinture ou le côté, parce que sur la cheminée, là, il y a l'oncle de Robert de Niro et le fils de Jean-Paul Sartre. Qui sont côte à côte. Je réunis, je refais des familles à travers le temps. Et c'est des gens qui seraient tombés dans l'oubli totalement si je ne les avais pas exhumés de ces brocantes où on les a trouvés. Et en fait, on n'a pas... D'abord, vous constatez qu'il n'y a aucun tableau de moi, de ma main, au mur. Parce que ça, c'est le cas, j'allais dire, dans toutes nos maisons. Non, mais ici, on est à Paris. Moi, je vis à Bruxelles, donc on a les deux. Et jamais j'ai des images de moi au mur parce que je ne veux pas imposer à ma femme ou à mes enfants... ma présence qui est déjà plutôt un peu répétitive quand ils ouvrent un journal ou qu'ils allument la radio.
Alors, les livres, on peut l'ouvrir, la bibliothèque ?
Oui, bien sûr.
Donc, c'est un meuble vitré. Les livres derrière. Alors, évidemment, c'est une petite partie de votre collection. Mais comment ils se retrouvent là, ces livres-ci ? Pourquoi ils ne sont pas à Bruxelles, ceux-là ?
Alors, c'est des livres qui sont parfois trop lourds pour être ramenés vers Bruxelles, parce que tout de même, je voyage en Thalys, donc je voyageais léger. Je reçois beaucoup de livres qui sont soit des hommages, soit des sollicitations. Tiens, est-ce que vous pourriez pas... Des gens que je ne connais pas, qui m'envoient des livres que je ne lis pas toujours, malheureusement.
Avoir des livres qu'on n'a pas lus dans sa bibliothèque, au contraire. Hein.
Ben, heureusement hein. Alors, il y a dans une bibliothèque deux sortes de livres. Ici, il y en a 3, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à moi. Comme c'est aussi ici un lieu où je travaille beaucoup, je dois pouvoir emmener tel album pour apporter à tel journaliste ou lors d'une tournée de promo d'un truc.
Il y a même des...
Ça, c'est des tirés à part, mais ceci, c'était amusant. J'avais sorti ça au moment où j'ai publié la Bible selon le chat. Et j'ai fait... sur une partie du tir à part.
Un coupon d'indulgence.
Des coupons d'indulgence pour les journalistes. Si tu écris du bien de mon livre, tu auras droit à la vie éternelle, etc. Et le dernier, c'est si tu en dis du mal, tu seras damné pour les temps. Et on peut découper
génial.
Voilà, on découpe le bon, et puis on le renvoie à l'éditeur, et comme ça, moi, je transmets ça au Vatican immédiatement.
Je vous le piquerai bien, mais c'est votre dernier.
Non, allez-y. Je vous l'offre.
Comme ça, j'aurai des indulgences.
Donc, une bibliothèque, disions-nous, comporte des livres qu'on a lus parce qu'on les aime et qu'on veut les garder près de soi. Et puis, elle contient heureusement les livres que l'on veut lire. Et puis, il y a les livres aussi, ne nous le cachons pas, qui font un peu d'écho et qui sont là parce que la couleur du dos du livre fonctionne avec le décor.
Et ou qu'on nous a offert et qu'on ne peut pas éjecter si jamais l'ami qui nous l'a offert passe.
Absolument. D'où il est prudent quand on reçoit des livres dédicacés et qu'on veut les remettre en vente chez le bouquiniste du coin, de toujours bien découper la page de dédicace. Parce que je vous jure que j'ai retrouvé moi-même des livres adressés à des journalistes.
Assez dur.
Chez Gilbert Joseph et certains avant la sortie officielle du livre. Donc, il y en a qui ne traînent pas. Vous savez ce que faisait Hugo Pratt, qui était un lecteur passionné ?
Corto Maltese,
l'auteur de Corto Maltese. Il avait un appartement à Venise, il en avait un autre à Paris et un autre en Amérique du Sud. Je pense que c'est l'Argentine, en Argentine. Et il avait donc trois lieux de vie. Et chaque fois qu'il achetait un bouquin, il l'achetait en trois exemplaires. Pour avoir la même bibliothèque où qu'il aille.
Génial.
Magnifique.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette bibliothèque? Alors, je vois le New Yorker et ça me fait penser qu'il y a quand même, évidemment, autant les feuilletons littéraires ont un peu disparu des journaux, autant les dessins, ça continue encore et encore. Je veux dire, le New Yorker, il est aussi connu en France par ses couvertures incroyables.
Alors, merci au New Yorker, merci aux journaux qui continuent à publier du dessin. Parce que beaucoup ont fait marche arrière. La photo, je trouve que honnêtement, dans la presse française, à part quelques exemples notoires, il n'y a pas assez de dessins. La presse française, ne publie pas assez de couvertures illustrées par des dessinateurs.
Comment ça se fait? Parce qu'on loue quand même les couvertures du New Yorker qui sont des illustrations à chaque fois.
Et l'essai n'a jamais été transformé ici. C'est plutôt une habitude anglo-saxonne. Les dessins dans les journaux, c'est important. Il y a, bien sûr, Plantu à la Une du Monde. Il y a Vooch. Il y en a quelques-uns. Il y a la presse satirique et illustrée. Charlie Hebdo, Ciné Mensuel et Le Canard Enchaîné, qui sont des journaux faits pour le dessin. Mais en dehors de ça, pour moi, personnellement, c'est un vrai manque. Et un autre manque, c'est celui de la disparition des dessins humoristiques. Quand j'étais petit, il y avait dans Paris Match, dans tous les journaux, des dessins qui étaient là, qui n'étaient pas des dessins d'actualité, ni politiques, ni polémiques forcément, mais qui étaient des dessins d'humour. Il y avait des pages entières de dessins.
Vous, dans VSD ou je ne sais plus.
Alors moi, j'étais dans VSD, bien sûr, je n'y suis plus. Alors il ne faudrait pas que j'accuse la presse, alors que c'est moi qui l'ai quitté à un moment. Mais c'est une profession qui existe infiniment peu maintenant. À l'époque, il y avait Bosque, il y avait Chaval, Sempé qui est toujours là, Bretéché, Tetsu. Enfin, moi, c'est des dizaines de noms qui me trottent en tête et de gens qui m'ont fasciné. J'étais à la recherche de ça. Il y avait Copy dans le Nouvel Observateur qui nous a été révélé grâce à cet hebdomadaire.
Alors là, vous êtes saisi d'un très beau livre. Dites-moi ce que c'est.
Alors, c'est le catalogue du Musée d'Orsay sur l'exposition Léon Spilliart, qui est un peintre immense, peintre, graveur, illustrateur belge, pré-abstrait, c'est début du siècle. Très sombre. Il n'est pas connu comme il devrait l'être. Il y a comme ça des génies de la peinture qui sont passés. Celui-là, par exemple, je m'arrête sur une illustration, j'aurais pu l'acheter, celle-là. Ce n'était pas dans mes moyens, mais elle était à vendre il y a 2 ans.
C'est une dame sur une jetée face à la mer.
Oui.
Mais alors, c'est très, très sombre. Hein,
Ah oui, mais vous savez, en Belgique, le ciel est parfois si bas qu'un canal s'est pendu. Hein.
Non, mais c'est ça, la mélancolie, ça va aussi avec l'humour. Hein,
Absolument.
Politesse du désespoir ou quelque chose
comme
ça.
Oui, je ne sais plus qui avait dit ça, mais...
L'humoriste est un rabat-joie, c'est Éric Chevillard. Ça.
Oh, c'est joli.
Qu'est-ce qui vous plaît chez lui dans cette noirceur? Qu'est-ce que vous allez chercher?
Regardez là, c'est une jeune femme sur la digue, qui doit être à Ostende ou je sais pas quoi, sur la jetée, coup de vent. Ah oui, Ostende, vous voyez, je reconnais. Y a du vent qui lui fait voler les cheveux et qui soulève très légèrement sa jupe et fait apparaître les jupons ou les culottes bouffantes. C'est très pudique.
C'est très beau.
En même temps, c'est très érotique, très fort, très sombre.
Vous êtes d'accord avec ça, l'humoriste en général a aussi une part, peut-être pas sombre, mais enfin est conscient de sa propre mélancolie pour faire rire.
Je suis d'accord avec cette analyse-là. Je n'aime pas l'expression « clown triste », parce que je pense qu'il y a des humoristes qui sont des gens joyeux, ce que je suis. Il y en a d'autres qui ont mal terminé. Chaval s'est suicidé, Bosque s'est suicidé, d'autres ont fait des dépressions nerveuses gravissimes. Franquin, par exemple, ce qui lui a permis de sortir ses idées noires, ce qui est à la fois paradoxal.
C'est le symbole de cette idée.
Mais tous les humoristes ne sont pas des gens sinistres, mais ils ont une conscience exacerbée de la noirceur du monde qu'ils exorcisent par leur travail.
J'en profite pour dire que ma consoeur Eva Bester sort un très beau livre aussi sur Léon Spilliard. Comment on dit, Spilliard ?
Oui, Spilliard.
Il est complètement inconnu, ce garçon. Hein. C'est
absolument
vieux. Pourquoi ? Il y a des gens qu'on redécouvre sans arrêt, puis qui retombent dans l'oubli, puis qu'on redécouvre.
Oui, et puis il y a des gens qu'on redécouvre pour toujours. Mozart a eu sa période d'oubli, Jean-Sébastien Bach aussi, et puis tout à coup, ça revient. Et je pense que Jean-Sébastien Bach, ça ne va plus jamais nous quitter. Oui, Eva Bessler, qui est une fille remarquable, je ne savais pas qu'elle avait fait un livre sur Spilliard. Je vais évidemment me le procurer.
Je vous le conseille. Et vous, vous resterez pour l'éternité, j'en suis sûr, Philippe Gueluc. Il n'y aura pas de retour et d'oubli et tout ça.
Vous pensez ?
Ouais, je suis sûr.
Allez, juste un petit début d'éternité, ça me suffit.
Merci beaucoup, Philippe Gueluc.
Merci à vous.
De retour en studio et je rappelle le titre du dernier album du Chat. Le Chat est parmi nous, c'est chez Casterman. Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix est libre. Il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons donc chez Stanislas Rigaud, à son comptoir, puisque la librairie Lamartine, dans le 16e arrondissement de Paris, est en click et collect. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai décidé de ne plus dire click and collect, mais click et collect. Je trouve ça mieux. Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour Nicolas.
Bon, alors, comment ça se passe là ? Parce que la librairie est fermée, en fait. Les clients ne peuvent pas rentrer dedans, mais il y a ce qu'on appelle le click and collect. D'ailleurs, il faudra penser à trouver un autre nom pour cette pratique, non ?
Je suis tout à fait d'accord. Le prends, ton livre, et vas-y, je sais pas, enfin un truc comme ça.
Non, mais j'ai rien contre les anglicismes d'habitude, mais là, on pourrait quand même dire click et collect, quoi.
Oui, c'est... tout simplement, en fait. Appuyer et collect, je sais pas. Ouais. Mais on peut y réfléchir. Hein.
Alors, comment ça se passe pour vous ?
Ben, ça se passe bien. En fait, c'est une surprise. Alors attention, hein, on est très loin de réaliser les chiffres qu'on est censé faire au mois de novembre. Mais par rapport aux projections qu'on s'était faites rapidement au moment de la mise en place du click and collect, on est en tout cas chez nous vraiment au-dessus de ce qu'on croyait en fait.
Il y a beaucoup de monde dehors au comptoir, c'est-à-dire que vous avez installé donc des tables devant la porte et puis les gens commandent par internet, par téléphone.
Bah voilà, en fait la démultiplication des réseaux, des moyens permettent d'avoir des commandes par plein de facteurs. On a effectivement des commandes par mail, des commandes par le site internet, des commandes par Paris Librairie, des commandes par téléphone, des commandes par réseaux sociaux. Donc on a beaucoup, beaucoup de commandes, et ce, depuis la mise en place du comptoir. Donc ça fait 10 jours, et donc la première surprise, c'est que le chiffre est plutôt pas mal. La deuxième surprise, c'est que ça ne faiblit pas.
Le problème avec cette technique, c'est que vous ne pouvez pas conseiller les clients. Enfin, ils peuvent pas, vous ne pouvez pas leur dire « celui-là, je vous assure, c'est bien, discutez un peu avec » et tout ça.
Alors il y a toute une dimension du métier qui est effectivement absente, qui est l'échange. Avec « j'aime bien ci, faites ça, machin ». C'est des choses, effectivement, aujourd'hui, on en est, entre guillemets, résumé à un comptoir et un service, effectivement, de « je veux quelque chose, je donne quelque chose ». Nous, notre boulot, c'est de réussir à maintenir une forme de conseil, notamment au travers du site et des réseaux sociaux de la librairie, avec les vidéos, avec les liens des libraires, pour quand même inciter les gens à découvrir des nouveaux titres.
Bon, alors, je suis là pour ça. Hein, si, prendre des conseils malgré tout, et ensuite on peut les commander en click et collect. Deux coups de cœur, Stan.
Alors, le premier coup de cœur, c'est un livre dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est Le Mal Renoir, l'historiographe du royaume aux éditions Grasset. Tout le monde en parle parce qu'il est en finale et du Goncourt et du prix de l'Académie. Et c'est un livre qui, bah, voilà, en fait, c'est une vraie surprise, c'est-à-dire que sur la ligne de départ de la rentrée littéraire, mais à coup le pas, hein, c'est un livre que je ne capte absolument pas en fait. Hein. Et les semaines passant, les progressions, les prix montant dans les listes, et donc en s'approchant des finales, on se rend compte qu'il y a ce livre de Maël Renoir qui est un peu partout et qui visiblement est bien parti pour avoir des prix. Donc, surprise, donc je décide de prendre ce livre, et c'est très très bon. C'est un gros coup de cœur des bails. C'est un peu un destin à la star du L'Hôtelier, l'anomalie dont vous parlez beaucoup chez Gallimard, qui est cette autre formidable surprise que je n'avais pas non plus anticipé au départ.
Ah, celui-là, moi, je l'avais vu.
Mais vous n'avez pas vu l'historiographe.
Non, ça j'admets.
Et l'historiographe, donc, magnifique écriture. Un français vraiment soutenu, mais alors... C'est un compliment. C'est vrai que souvent, quand on dit un français soutenu, les gens disent « Non, non, c'est vraiment un compliment. » Ce qui ferait pour moi que l'historiographe serait un formidable prix de l'Académie française, parce que c'est un bel hommage en première ligne à la langue française. Et donc, on part au Maroc, on part au XXe siècle, pardon. Et c'est l'histoire d'un homme qui, pendant ses études, va rencontrer le futur sultan. Il fait partie du Collège royal. Alors, ce n'est pas un lien d'amitié, mais un lien de connaissance qui va s'établir entre les deux. Et cet homme va être marqué au prisme du pouvoir royal pendant toute sa vie. Et c'est ce qu'il va nous raconter, ce qui explique aussi le style, puisque c'est lui le narrateur, c'est un fou de littérature, c'est quelqu'un qui a de grandes ambitions littéraires, et donc qui se raconte, et ce destin de celui qui va devenir l'historiographe du royaume. C'est brillant et brillamment écrit.
Et c'est une histoire marocaine, finalement.
Et c'est une histoire marocaine en creux, tout à fait.
Il nous reste une toute petite minute pour un deuxième coup de cœur. Je crois que c'est un... polar.
Alors, tout à fait. C'est effectivement un polar. Eva Garcia Sanz de Urturi, Urturi, U-R-T-U-R-I, Le silence de la ville blanche aux éditions Fleuve Noir. Alors, c'est un polar espagnol qui rappelle fortement Dolores Redondo, qui avait été un très gros succès il y a quelques temps de ça, avec sa trilogie. Et donc, c'est un polar qui s'ancre dans une ville. On est en Espagne, un tueur en série avec des meurtres ritualisés.
Encore ?
Encore. On se dit, d'accord, on l'a déjà vu mille fois. Et effectivement, on l'a déjà vu mille fois. Oui, mais très rapidement, on se fait quand même attraper. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout de suite quelques questions qu'il y a. Il y a un contexte local qui est très, très bien dessiné. Des personnages avec un vrai ancrage familial, notamment, qui sont très vite intéressants. Et progressivement, on va totalement oublier ce « et oui, encore », en fait, pour se faire totalement choper et tenir ce bouquin jusqu'aux dernières pages où on va trouver enfin la résolution du mystère de la ville blanche.
Merci Stan. On a dit donc « L'historiographe du royaume » de Maël Renoir, c'est chez Grasset. Et chez Fleuve Noir, un polar, ça fait du bien aussi. Eva Garcia Sanz de Urturi, « Le silence de la ville blanche ». Merci beaucoup Stan et bon courage.
Merci, bonne journée Nicolas.
Europe 1.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un album jeunesse consacré au centenaire de l'Aéropostale. Un album intitulé simplement « L'Aéropostale, le courrier doit passer », écrit par David Marchand et Guillaume Prévost.
Oui, je vous embarque dans les airs aujourd'hui Nicolas. Et au siècle dernier, à la base, l'Aéropostale n'est qu'un rêve, celui de transporter du courrier en avion de la France jusqu'en Amérique. Alors un trajet de près de 14 000 km, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque on est en 1918 au sortir de la Grande Guerre et on vole que depuis quelques années seulement, mais un homme, un certain Pierre-Georges Latécoère, y croit dur comme fer.
Mais ça se passe pas aussi facilement que prévu.
Alors non, pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début, on ne traverse pas l'Atlantique, mais on essaie de faire des premiers vols plus courts, des sauts de puce. Latécoère doit convaincre les autorités de la faisabilité de son projet. Il y a un épisode qui caractérise parfaitement ses débuts délicats. C'est l'épisode des Violettes. Il s'agit de faire Toulouse-Casablanca. Mais comme le raconte l'un des deux auteurs, David Marchand, c'est plus que chaotique.
Il lui a fallu pas moins de 3 tentatives pour y arriver, donc c'était un petit peu une mauvaise pub au départ. La première fois, en fait, ils se sont écrasés sur une piste d'atterrissage qui était trop courte. Et la seconde fois, on a un épisode encore plus cocasse, puisque le pilote était myope et a perdu en vol ses lunettes de vue, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'habitacle, en fait, les pilotes conduisaient à l'air libre. Et donc il a fallu une troisième fois pour réussir enfin à faire Toulouse-Casablanca. En arrivant, pour marquer les esprits, parce que Latécoère était aussi un fin communicant et il savait qu'il fallait marquer les esprits, il a apporté avec lui le journal du matin et un bouquet de violettes cueillies le matin même à Toulouse.
Des violettes fraîches justement pour symboliser cet exploit qui va justement réussir et il va pouvoir passer un premier contrat pour acheminer le courrier entre la France et le Maroc. Et une fois qu'ils arrivent justement à faire Toulouse-Casablanca, ils vont aller chaque fois un peu plus loin avec dans les soutes du courrier Casablanca-Dakar, puis la traversée du désert, puis la traversée de la jungle amazonienne de l'autre côté de l'Atlantique, puis les vols de nuit. Mais là, je m'arrête, parce que sinon, je vais vraiment tout vous raconter.
Il faut relire Saint-Ex aussi.
Bien sûr.
Question rituelle. À partir de quel âge peut-on lire cet album ?
C'est très bien adapté pour les enfants à partir de 7-8 ans. Un album très joliment illustré par Julie Guillem avec des citations. Vous venez justement d'en parler d'Antoine de Saint-Exupéry et de Vol de nuit, bien évidemment, de Jean Mermoz, de Joseph Kessel. Bref, on voyage à chaque page et surtout, on saisit parfaitement la difficulté de ces pionniers des airs qui ont pris des risques considérables pour acheminer, justement, du courrier.
Et c'est très beau, les illustrations. On rappelle le titre, L'aéropostale, le courrier doit passer, de David Marchand et Guillaume Prévost, illustré par Julie Guillem, un album édité par Milan.
Exactement.
Ça ? Merci beaucoup, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
À la semaine prochaine. Europe 1. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.